Bonjour à tous, la médecine existe depuis des millénaires et Internet depuis à peine 15 ans, mais la rencontre des deux est très récente. La médecine est sortie des cabinets depuis que les patients demandent en plus d'être soignés, d'être également informés, voire incollables sur leur maladie. Comment fonctionnent ces sites médicaux et qui en est à l'origine? Y a-t-il une charte d'éthique ou des principes bien établis? La formation médicale pour tous est-elle un progrès? Qu'en pensent les médecins eux-mêmes? Est-ce un lieu de rencontre entre malades? Comment résister à la tentation de l'autodiagnostic et de l'automédication? Toutes ces questions, nous les poserons au docteur Dominique Dupagne, médecin à l'origine du site atout.org. La médecine sur Internet, c'est aujourd'hui jusqu'à 13h. Dans Vivre FM, c'est vous. Vivre FM, c'est vous, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour parler d'une tendance, la médecine sur Internet. Un numéro de téléphone est toujours à votre disposition, c'est le 01 56 88 40 20. Notre invité, c'est le docteur Dominique Dupagne, à l'origine du site atout.org. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors la médecine sur Internet, est-ce que c'est nouveau et est-ce que c'est une vraie tendance?
La médecine sur Internet, c'est apparu en 96 avec les groupes de discussion qu'on appelait à l'époque Usenet, qui existent encore. Mm-hmm. Mais c'est maintenant une très forte tendance, puisque c'est un sujet vraiment très intéressant pour les internautes qui viennent souvent sur les sites santé. Mm-hmm.
Alors les sites, on en connaît quelques-uns, il y a Doctissimo, il y a Atout.org, le vôtre. Est-ce que ils sont nombreux ces sites?
On va dire qu'il y a une petite dizaine de sites qui comptent, mais avec bien sûr, comme vous le signalez, un gros leader en termes de trafic, qui est Doctissimo. Mm-hmm. Le mien faisant à peu près le quart du trafic de Doctissimo.
Alors est-ce que ces deux sites ont finalement la même optique? On a l'impression que Doctissimo est orienté très famille, très question d'enfance, des choses comme ça. Plus large en tout cas.
Doctissimo est un site qui parle de santé en général parce que c'est un sujet qui intéresse. Il couvre donc quasiment tout le champ de la santé, la forme, le bien-être, les maladies. Il y a des forums, il y a des blogs, il y a des pages d'information, il y a des éléments encyclopédiques. C'est un site qui se veut complet et qui est un site commercial, hein, qui est un site qui vit de son audience. Atout est un site bénévole pour lequel l'audience n'est pas un objectif en soi et qui couvre un champ plus restreint, essentiellement des forums et pour certains problèmes seulement.
Alors vous l'avez dit, cette arrivée des sites sur Internet, c'est plus large que le médical, hein, c'est aussi le bien-être, et puis alors là on va avoir la présence de la relaxation et puis aussi peut-être des médecines alternatives.
Alors, la recherche d'informations sur Internet comporte certes des éléments concernant la médecine traditionnelle et les médicaments traditionnels, mais aussi bien sûr des éléments de prévention, de santé, de bien-être, des produits alternatifs, des compléments alimentaires, des alternatives aux médicaments classiques. Beaucoup, il y a une recherche importante de la part de l'internaute qui dit « on m'a prescrit ça, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelque chose de moins dangereux quand il s'imagine que les médicaments sont dangereux, par moi-même, ou avoir des conseils qui sortent un petit peu de ce que je peux entendre dans mon cabinet, dans le cabinet de mon médecin. »
Alors la création de votre site, on en reparlera, mais est-ce que quand vous avez choisi de faire ce site médical, vous avez posé les limites? Comment vous les avez choisies? C'est-à-dire parler que de médecine pure, parler de psychologie, parler de... Comment vous avez fait ces choix?
Mon but au départ était de parler de médecine de façon précise et c'était même d'aider uniquement, enfin le but initial c'était d'aider les gens à chercher de l'information sur Internet, car comme j'avais traîné sur des forums, les fameux forums Usenet, et que j'avais vu des horreurs ou des gens perdus, je me disais il faut que j'ai un espace dans lequel je puisse avoir un relatif contrôle sur l'information qui passe et où je puisse apporter une aide de façon un peu plus structurée, car l'essentiel des problèmes, car c'était juste au moment où Google venait d'apparaître, c'est que les gens n'arrivaient pas à trouver la bonne information sur Internet.
Alors ces gens, pour ces sites en général, qui sont-ils? Qui sont les personnes ciblées par ces sites? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a un âge précis?
Alors l'âge, il y a plusieurs catégories, les marketeurs parlent de cible, mais il y a plusieurs catégories. Il y a le jeune internaute pour qui Internet fait partie de sa vie et qui, chaque fois qu'il se pose une question, tape une recherche dans Google avant d'ouvrir un livre ou de téléphoner à qui que ce soit. Mm-hmm. Vous avez la personne plus âgée qui a un abord peut-être moins spontané pour Internet, mais qui est plus dans la revalidation, qui se dit « on m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai ?» qui a l'habitude de confronter les avis et qui se dit « je vais vérifier cela ». Vous avez la personne entre deux âges qui n'a pas le temps de consulter et qui se dit « je vais peut-être pouvoir trouver la réponse à mon problème sur Internet ». Vous avez des gens qui n'ont pas accès à la médecine, car Internet est international. En France, on a l'habitude d'une certaine accessibilité à la médecine, notamment avec la CMU, mais il y a beaucoup de pays pour qui la médecine est inaccessible pour une catégorie de la population.
Alors pour notre pays notamment, est-ce que le nouveau courant, ce n'est pas justement de tout vouloir savoir, la transparence et l'information médicale?
Il y a une demande d'information très importante pour le public et la loi de 2002, la loi Kouchner, prévoit justement que le public a droit à de l'information, que ce soit sur sa maladie, sur son dossier médical, sur la façon dont travaille son médecin. et c'est un mouvement qui me paraît absolument inéluctable.
Mmh. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt très français au médical, c'est-à-dire qu'on sait que les Français sont de gros consommateurs de médicaments, de soins de santé et peut-être aussi de ce qui parle du médical.
Eh bien, je vais vous décevoir, non. Enfin, vous décevoir, je ne sais pas. Mais les Français, comme je vous le disais tout à l'heure, sont caractérisés par un accès facile aux soins. En France, on ne sait pas ce que c'est que des gens qui sont totalement exclus du problème de santé, ou si c'est le cas, ça reste des situations extrêmes, soit des gens qui ne peuvent pas se mobiliser vers des centres de soins, soit des gens qui sont dans des régions de France un petit peu désertifiées sur le plan médical, et ça commence à apparaître dans les campagnes, ou des gens qui ne savent pas utiliser les systèmes d'aide sociale. Mais vous avez des pays, comme les États-Unis, où la médecine et les soins sont hors du budget d'une partie de la population. Et alors là, Internet devient une réponse possible.
Est-ce que Internet, avec les informations qu'il fournit, c'est aussi compenser ce que ne fait pas peut-être parfois le médecin ?
Clairement.
Expliquer.
Ah, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le médecin est souvent un peu pressé. Et le patient reçoit le diagnostic, sort de chez le médecin avec un diagnostic ou avec un résultat d'examen quand il a été dans un laboratoire et va chercher à en savoir plus sur Internet de deux façons. La première, c'est en lisant des documents sur son problème. Quand il est identifié, on parlera tout à l'heure de la recherche de diagnostic est tout à fait différente. Mais là, il les sort avec un diagnostic, il veut en savoir plus. Et l'autre chose très importante sur Internet, c'est comparer son expérience avec celle des autres. C'est-à-dire trouver des forums où il puisse dire comment avez-vous vécu ce que moi je vis ou ce que je vais vivre.
Alors comparer son expérience ou alors accéder à la formation, est-ce que finalement ce n'est pas dangereux puisque ce qu'on va trouver sur Internet, c'est forcément une vision simpliste et caricaturale de la médecine, et la médecine c'est pas ça, c'est plus complexe et dans la subtilité peut-être.
Alors simpliste et caricaturale, je suis pas d'accord avec vous. Il existe certes des sites grand public dans lesquels l'information existe sous forme de réduction, de résumé, de digest, mais l'internaute a accès à une information de haute qualité, à des articles scientifiques auxquels il ne comprend pas forcément tout, mais l'information brute, ça, il y a accès. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire maintenant après ? Ça, c'est une autre chose. Mais l'information elle-même, il y a accès.
Alors, on marque une petite pause et on se retrouve juste après. Et Vivre FM, c'est vous jusqu'à 13h du lundi au vendredi. La médecine sur Internet a le vent en poupe et on en parle aujourd'hui avec nous Dominique Dupagne, médecin à l'origine du site atout.org. Et je vous rappelle le numéro de téléphone pour poser vos questions ou témoigner 01 56 88 40 20. Alors Dominique Dupagne, Atout est un site qui a quel âge et comment il est né ?
C'est un site qui a 6 ans. Il est né en 2000 quand, après avoir participé à des forums, j'ai voulu créer un site. Je voulais créer un site depuis longtemps, mais je cherchais une mission pour ce site, et j'ai fait un site de forum au départ. Il faut voir qu'il y a 6 ans, les outils disponibles pour créer des forums sur Internet n'étaient pas si fréquents, si nombreux, et le forum que j'ai créé n'a pas eu de succès du tout. C'était pas très fonctionnel.
Ah, c'est ça, c'était un problème de, c'était pas au point, quoi, techniquement.
Techniquement,
quoi.
C'était compliqué, les gens n'étaient peut-être pas mûrs pour ça, et donc, ce qui est merveilleux avec Internet, c'est qu'on n'est pas figé dans un projet, donc j'ai embrayé mon site vers l'aide à la recherche d'informations médicales. J'ai fait des pages qui étaient dédiées à l'aide à la recherche, suivant vous cherchez ceci ou cela, c'est là qu'il faut aller.
Tout de suite pour le grand public, hein.
Tout de suite pour le grand public.
C'était ça,
j'ai rapidement fait une page pour les médecins, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas le grand public d'un côté et les médecins de l'autre. Il y a des gens qui s'intéressent à la santé, qui ont un niveau de culture scientifique ou médicale qui va de rien à scientifique de haut niveau. Et il en faut pour tout le monde. Il ne faut pas cantonner ni parquer les gens dans des types de sites particuliers.
Alors, il y a 6 ans, il y avait aussi un contexte. Hein, c'était, je pense, l'explosion des sites Internet. Est-ce qu'il y avait beaucoup de sites médicaux? Et est-ce que vous avez voulu profiter, et vous auriez raison d'ailleurs, de cette expansion formidable d'Internet?
Alors, à l'époque, j'étais membre de l'association des médecins qui font des sites Internet, qui s'appelle MMT-FR. Il y a un site sur ce sujet. Je suis devenu président assez rapidement de cette association. Et on était des médecins qui faisions des sites quasiment tous bénévoles, comme ça, pour la merveille de l'outil, pour ce que ça pouvait apporter. Et c'est en effet au même moment qu'est apparue la bulle Internet et des sites santé qui étaient dotés de budgets de 20 millions d'euros pour leur développement, que ce soit des sites de l'industrie pharmaceutique, des sites de groupes de presse, qui sont presque tous morts depuis. Mais il y a eu cette fameuse bulle qui nous a un petit peu éclipsés, mais bon, il se trouve qu'on a survécu un petit peu comme les petits mammifères après les dinosaures.
Est-ce que, par ailleurs, vous avez une vraie passion pour Internet, pour l'informatique, ou est-ce que c'était un outil de
non,
plus?
Non, clairement. Clairement, il y a une passion, il y a une réponse à un problème, c'est que je suis quelqu'un qui dort peu, donc je me réveille souvent à 5-6 heures du matin, et que quand Internet est apparu, ça a vraiment été une révolution pour moi, parce que lire, ça va 5 minutes, mais enfin, on est quand même content de pouvoir participer. Et donc, j'ai appréhendé l'outil dès 96, quand il a commencé à apparaître en France, et je n'avais de cesse pendant longtemps que de faire un site, j'attendais simplement d'avoir quelque chose à faire.
Est-ce que vous étiez seul sur ce projet ?
Oui.
tout à fait seul, d'accord.
Comme souvent, hein. Souvent, les webmasters, c'est très rare que les webmasters qui créent des sites soient plusieurs d'emblée. C'est vraiment une activité de solitaire.
Alors, Dominique Dupagne, vous êtes également médecin et vous consultez en ville, à l'hôpital. Vous avez des patients. Comment vous gérez ça? Est-ce que sur le site, il y a votre nom de médecin?
Alors, il y a mon nom sur le site parce que je suis dans une situation un peu difficile. En tant que médecin, je dois donner mes coordonnées de façon légale sur le site pour ne pas me cacher et pour que le site soit officiel et respecte la loi.
Ça, c'est en tant que webmaster.
En tant que webmaster. Absolument. Donc, je dois mettre mon nom et puis je n'ai pas de raison de le cacher non plus. Il est important que les gens sachent que c'est un vrai médecin qui est derrière le site. Mm-hmm. D'un autre côté, il y a une obligation de non-publicité pour les médecins. Nous n'avons pas le droit à la publicité.
Ce qui est différent aux États-Unis, par exemple.
Ce qui est différent, très différent même aux États-Unis. Et j'ai résolu assez facilement le problème en arrêtant de prendre des nouveaux patients, en me faisant mettre dans les pages jaunes, me faisant supprimer des pages jaunes. Je suis caché. Et si par hasard on me trouve, mon secrétariat a pour mission de refuser tout patient qui voudrait prendre rendez-vous avec moi. Donc j'estime qu'on ne peut pas m'accuser de faire de la publicité.
Vous avez choisi de ne pas accepter les clients qui vous, les patients qui vous connaîtraient par ce site précisément.
Non, les patients qui ne me connaissent pas en général. C'est-à-dire que quelqu'un, après cette émission, par exemple, qui trouverait mon nom dans un annuaire professionnel et qui voudrait prendre rendez-vous, ne pourrait pas prendre rendez-vous avec moi.
Alors, qui est-ce qui travaille avec vous à la gestion de ce site? Est-ce que, je crois qu'il y a des bénévoles.
Oui, c'est une belle histoire. Vous savez, quand vous vous lancez dans quelque chose qui commence à fonctionner et que vous avez une certaine éthique personnelle, eh bien, petit à petit, des gens qui arrivent sur le site sont séduits par le concept et ont envie d'aider. Il y a beaucoup de gens, et ça, dans le monde du handicap, on le sait, il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont prêts à aider. Mmh. Et il y a des gens qui ont dit, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et quand ces gens me paraissaient vraiment motivés et que leur qualité pouvait m'être utile, j'ai dit, bien sûr, venez m'aider. Donc, sont venus m'aider un médecin, une étudiante en médecine. J'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires qui, eux, sont restés anonymes parce qu'ils sont pas obligés de mettre leur vrai nom. Et puis d'autres personnes, enseignants, secrétaires.
Mais ça commence à faire du monde, ça.
Il y a une dizaine de personnes qui participent à l'animation du site, qui font un travail absolument énorme. Si je payais ces gens, ils ne feraient jamais tout ce qu'ils font là. Ils le font parce que ça les intéresse, par passion, parce qu'ils se sentent eux aussi à l'aise dans cette mission d'aide vis-à-vis des autres.
Alors leur rôle, c'est souvent l'animation, la modération, c'est-à-dire le contrôle des messages des forums, puisque les forums sont une grande partie du site.
C'est extraordinairement difficile de gérer un forum sur Internet. Beaucoup de gens se lancent et ça marche très rarement. Je pense qu'il n'y a pas un forum sur 100 qui survit sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est l'absence de succès. C'est le plus fréquent. On fait un outil, on fait un joli forum et on se dit les gens vont venir. Ben, en pratique, les gens ne viennent pas. Les gens ne vont pas venir sur un forum parce qu'il y a un forum. Ils viennent parce qu'ils ont une raison ou parce qu'ils sont déjà structurés en communauté et que le forum devient un outil qu'on met à leur disposition. Mais la majorité des forums restent vides. L'autre problème, c'est quand le forum marche. Il se développe, le nombre de participants augmente petit à petit, et puis comme tout groupe social, les tensions apparaissent. Vous avez des leaders d'opinion, vous avez des grandes gueules, vous avez des timides, vous avez des manipulateurs. Et comme dans la vraie vie, comme dans une cour de récréation, comme dans un groupe, comme dans une association, les tensions apparaissent. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour apaiser ces tensions, modérer, comment le mot modérer est important, être modérateur, resituer les choses, couper les messages injurieux ou blessants, le forum explose toujours, ça se passe très mal.
On écoute un petit peu de musique, on en reparle juste après. La médecine sur Internet, c'est le thème de Vivre FM, c'est vous. Aujourd'hui, jusqu'à 13h, la preuve de cet engouement par l'exemple avec le docteur Dominique Dupagne, créateur du site atout.org. Est-ce que vous avez une estimation de la fréquentation de ce site?
Oui, on a des outils qui nous permettent de savoir un petit peu qui vient dessus. J'ai d'une part des statistiques internes du site qui me donnent 1 300 000 visiteurs par mois environ. Et j'ai des statistiques par un classeur extérieur qui s'appelle Hitparade et qui donne 900 000 visiteurs environ. Donc là, ça doit se situer entre les deux à peu près, environ 1 000 000.
Alors on va parler un petit instant du financement, non pas pour être complexe sur les questions économiques, mais pour tous ceux qui souhaiteraient ouvrir un site et pour expliquer que c'est très important de savoir si le site est financé, indépendant, des choses comme ça.
Bien, je suis très content que vous me posiez la question parce que le financement des sites sur Internet est une des choses qui me préoccupe personnellement. Alors pour le mien, c'est facile, c'est moi qui paye tout. Alors heureusement, Internet permet de faire des choses remarquables avec peu d'argent. Le site me coûte 160 euros par mois, qui est le coût de la location du serveur. Et puis le temps que j'y passe, mais ça, c'est pas de l'argent. Et j'arrive à financer cette somme. Il y a des hobbies qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Et je ne joue pas au golf, je n'ai pas de bateau. Donc je peux dépenser 160 euros par mois pour faire vivre mon site. J'ai mis sur des parties un peu mortes du site, qui ne sont plus actives, quelques publicités dans l'espoir un jour de récolter avec les publicités assez d'argent pour payer le serveur en créant une association pour faire fonctionner le site. Mmh. Mais surtout, pourquoi est-ce que je suis content que vous me posiez cette question? C'est parce que beaucoup de sites ont l'air comme ça, bénévoles et n'ayant pas de vocation commerciale. Et malheureusement, Internet est de plus en plus utilisé par des lobbies financiers ou autres qui veulent faire passer un message ou promouvoir un produit et qui se cachent derrière un site, derrière une association, derrière un regroupement dont ils financent l'activité et qui devient un espace publicitaire pour eux. On a du public rédactionnel, vous avez des sites commerciaux qui publient des articles entiers qui sont payés par un sponsor. Mmh. Vous lisez un article sur les soins de la peau et vous ne savez pas que le produit dont on parle a payé pour que vous lisiez l'article. Bref, il y a vraiment une difficulté d'identifier le sponsoring par rapport à la vraie information.
Alors, une grosse partie du site sont les forums sur Atout. Et l'idée, c'est que les internautes sont les principaux acteurs de ce site, finalement.
Bien sûr. Les internautes font le site, c'est eux qui postent les 1000 messages par jour que le site reçoit, c'est eux bien sûr qui en assurent le trafic, il y a assez peu de médecins qui viennent sur le site, il y en a aussi quand même, et ce sont eux qui apportent par leur message le contenu du site. Alors néanmoins, les médecins qui m'aident et moi-même avons posté des dizaines de milliers de messages, des réponses aux questions, donc il y a quand même une matière que nous avons apportée. Mais je pense par exemple au forum d'entraide pour l'arrêt du tabac, de l'alcool ou pour les maladies mentales. Ce sont beaucoup d'aides entre participants qui représentent le contenu du site.
Alors justement, ces forums sur l'arrêt de l'alcool et l'arrêt du tabac, les gens sont pourtant inondés d'informations dans tous les sens. On leur parle tout le temps de patchs, de consultations pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher de plus sur ces sites?
Ils viennent chercher de la convivialité. Ils viennent chercher du soutien. Quand on arrête des drogues aussi dures que l'alcool et le tabac, on a besoin d'être aidé. Certes, les médecins peuvent apporter une aide, les psychologues peuvent apporter une aide, les lectures aussi peuvent apporter une aide, mais se retrouver au milieu d'un groupe qui a la même problématique au même moment, est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement dynamique. Je fumais quand j'ai créé ce forum, et j'ai fini par arrêter de fumer face à la dynamique de ce que je gérais.
Est-ce que ça veut dire que les pouvoirs publics, par exemple dans les campagnes de prévention, ne s'adressent pas à eux comme il le faudrait? Pas assez directement, peut-être.
Si, tous les outils sont complémentaires. Il y a de la formation. C'est vrai que si on compare les budgets qui sont mis en place pour les pouvoirs publics pour lutter contre le tabac et celui que je consacre au forum uniquement arrêter de fumer et les résultats obtenus, je suis sûr que j'ai un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Mm-hmm. Enfin bon, je l'ai fait. C'est le plus gros forum français sur l'arrêt du tabac et d'entraide. J'ai été aidé par Google qui a fait la promotion de mon forum sans rien me demander gratuitement. C'est vraiment intéressant. Et clairement, c'est un outil puissant pour arrêter de fumer.
Alors concrètement, un internaute pose une question sur comment arrêter de fumer, par exemple. Est-ce qu'on lui répond? Combien de temps après? Comment ça se passe?
Au début du forum, je répondais systématiquement aux questions. Et puis, comme vous l'imaginez, 5 ans après, je commence à en avoir un petit peu assez de répéter toujours la même chose. Donc, il y a les archives du forum qui sont là. Et il y a les internautes qui, d'une part, répondent eux-mêmes, parce que souvent, ils ont la réponse, ou retrouvent l'origine ou le message qu'il faut lire pour avoir la réponse. Donc, finalement, le forum sur l'arrêt du tabac, par exemple, je n'y interviens quasiment plus pour répondre aux questions, sauf quand il y a une question toute nouvelle, toute précise, un nouveau produit vient de sortir, on voudrait mon avis, et je le donne.
Est-ce que la réponse, c'est souvent aller consulter un médecin?
Alors sûrement pas pour les forums arrêter de fumer, les forums arrêter l'alcool. En aucun cas, bien sûr, on va faire la promotion du médecin systématiquement. En revanche, sur le forum maladie, qui est quand même le plus gros forum, c'est-à-dire un forum sur lequel on pose des questions sur les maladies, il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne lisent pas la charte du forum, qui ne comprennent pas son fonctionnement et qui exposent des symptômes en cherchant un diagnostic. Chose qui est totalement impossible, voire très dangereuse sur Internet.
Il y a également un forum sur le droit de la santé, les questions juridiques. Beaucoup de gens s'estiment abusés par les médecins, notamment en chirurgie esthétique par exemple. Est-ce que Internet, c'est un peu ce qu'on ne peut pas attendre d'un médecin, c'est-à-dire d'être complètement indépendant par rapport à sa profession?
Sa profession, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des questions de carrière pour les médecins, ils ne veulent pas se sentir mis en doute.
Vous voulez dire que le médecin n'aime pas qu'on mette en cause ce qu'il dit?
Absolument.
Alors, bien évidemment, les médecins n'aiment pas trop qu'on les conteste, et notamment qu'on conteste l'information qu'ils délivrent. Mais de plus en plus, les patients arrivent chez le médecin en disant « Voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela sur Internet », et n'hésitent pas à susciter un dialogue. La réaction des médecins est multiple, elle peut être négative. Alors, si vous croyez tout ce que vous lisez, c'est n'importe quoi, et puis renvoyer le malade dans ses buts, ça c'est malheureusement assez fréquent. Et puis, parfois, il y a un intérêt réel, un dialogue qui s'installe en disant « Oui, écoutez, vous avez lu ça, mais... » il apparaît clairement que le médecin va aider le patient à comprendre ce qu'il a lu. Alors pour l'instant, c'est pas prévu dans la rémunération du médecin, et s'il doit passer une demi-heure à éplucher tout ce que le patient amène et qu'il a trouvé sur internet, il va râler un peu. Mais il y a quand même on sent un petit mouvement chez les médecins les plus ouverts pour accepter de dialoguer sur ce que le patient a trouvé.
Un petit peu de musique et on en reparle. Et Vivre FM, c'est vous, jusqu'à 13h du lundi au vendredi. La médecine et l'information médicale sur Internet, c'est le thème d'aujourd'hui. Notre invité, c'est le docteur Dominique Dupagne, créateur du site atout.org. Nous parlions donc de ces forums où les gens peuvent échanger sur leur maladie, sur le domaine médical. Est-ce que ces forums ont des règles précises?
Oui, ils ont des règles. Je vous parlais tout à l'heure du danger de dérapage des forums et le fait que dès qu'il y avait une fréquentation importante, il y avait un risque d'explosion ou de crise majeure. Il y a des règles qui ont été créées il y a une dizaine d'années, qui se sont affinées et qu'on appelle la netiquette, N-E-T-I-Q-U-E de T-E.
Des forums qui sont d'ailleurs ces règles rappelées sur votre site. Il y a une catégorie, une étiquette des forums. Alors,
absolument.
Qu'est-ce que ça contient par exemple? Est-ce que ce sont des règles de bon comportement?
Il y a des règles qui paraissent évidentes, hein, de ne pas injurier les gens, de réfléchir à ce qu'on écrit, mais des choses auxquelles on ne pense pas forcément. La première, auxquelles on ne pense pas, par exemple, c'est de se dire qu'il n'y a pas que des Français qui vont lire ce qu'on écrit. Il peut y avoir des Canadiens, il peut y avoir des gens qui sont des étrangers et qui lisent du français. Il faut donc faire attention toujours à quand on a des références régionales, de se dire que ça ne sera pas forcément compris par tout le monde. Ensuite, il faut savoir que l'écrit est un amplificateur de conflits énormes et qu'avant de crier, de hurler, et crier c'est écrit en majuscule par exemple, il faut mieux avoir une bonne nuit de sommeil, ce qui généralement permet de remettre les choses en place et d'éviter de se lancer dans une crise. Il faut plutôt affirmer soi en disant « je » plutôt que « tu » et juger les autres.
Donc il y a des règles pour l'équilibre du site et aussi des règles de protection de l'internaute, c'est-à-dire qu'il ne doit pas trop en dire sur lui.
Alors en matière de santé, les gens sont très imprudents et exposent dans des forums des choses les concernant en mettant soit leur vrai nom, soit un surnom qu'ils emploient ailleurs et découvrent ensuite dans Google que leur histoire est accessible par n'importe qui, tape ZZ de Monaco et il se trouve que ZZ de Monaco a un problème que tout le monde peut lire maintenant. Mm-hmm. Et donc il faut être très prudent, il faut utiliser quand on parle de sa santé des pseudos très anonymisés, Jean-Paul 2005, de façon à ne pas pouvoir être identifié si un jour une personne malveillante cherche des informations sur vous.
Ne pas citer non plus les professionnels de santé, c'est-à-dire que si on a une mauvaise aventure avec une infirmière ou un médecin, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense sur elle ou lui.
Alors là, on revient sur la responsabilité de l'administrateur du site que je suis. Il y a deux choses que je ne peux pas accepter. La première, ce sont des dérives publicitaires pour des médecins X ou Y, c'est-à-dire dire « j'ai vu le docteur Intel qui m'a sauvé la vie ». Je ne sais pas si ce n'est pas justement la femme du docteur Intel qui pose le message. Mm-hmm. Donc, on ne doit pas recommander un médecin sur mon site. De la même façon, critiquer violemment un médecin est quelque chose de difficile parce que c'est moi qui vais être poursuivi en diffamation. J'ai récemment eu le problème sur mon site, un médecin canadien qui était poursuivi par la vindicte d'un patient dont la femme a eu un gros problème avec lui, mais il s'est trouvé que j'avais des preuves comme quoi cette information était vraie, et donc ce médecin m'a même contacté pour que j'efface les données, et je lui ai dit écoutez, si c'est vrai, je n'ai aucune raison de les effacer. Il n'était pas content, mais j'ai gardé les données sur mon site.
Alors est-ce que sur ces forums, il y a la place pour l'humour et la plaisanterie, ou est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont interdites?
Alors il y a deux choses qui sont sur le site, sur atout.org, et qui concernent l'humour. D'une part, il y a un forum sur l'humour médical, parce que je trouvais que c'était plutôt sympathique, il y avait des histoires qui circulaient, donc j'ai fait un recueil d'histoires drôles à thème médical. Mm-hmm. Et puis bien sûr, l'humour est une arme que j'emploie énormément sur le forum, parce que ça permet de dénouer les tensions, les situations difficiles, et que personnellement, j'aime bien l'humour en plus.
Donc ça c'est intéressant, il y a une absence de tabou, une petite histoire. Quel est le point commun entre un gynécologue et un disque jockey? Ils travaillent tous les deux là où les autres s'amusent. Est-ce qu'on peut tout dire sur Internet?
Écoutez, comme toujours, on cite la phrase de des proches, hein, on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Les gens sont prévenus, c'est une rubrique d'humour médical. Je n'ai pas de censure, je n'ai heureusement pas eu d'histoire trop trash, trop dérangeante qui soit publiée sur mon site. Je pense que j'ai un système d'alerte, hein, c'est-à-dire que sur le forum, sous chaque message, il y a un bouton, on peut appuyer dessus en disant il y a un problème avec ce message. Mm-hmm. Si je voyais une histoire qui soit vraiment humiliante pour une catégorie de population ou qui soit bien sûr contraire à la loi ou incitant à la haine raciale ou autre, bien sûr je la supprime.
Alors il y a un forum, on va prendre l'exemple du forum de la schizophrénie, donc qui touche au handicap psychique, parce que c'est un sujet délicat. Est-ce que ce forum est réservé, d'abord, première question, aux schizophrènes eux-mêmes?
Oui et non. Non, parce que je ne peux pas demander une carte de schizophrène à l'entrée, c'est clair. Donc je ne peux pas savoir qui est ou qui n'est pas schizophrène. En revanche, c'est vrai que ce forum, qui est un des plus anciens du site et un des plus complexes, puisque je suis face à des personnes qui ont un handicap important et dont la vie relationnelle est normalement extrêmement difficile, j'ai demandé aux parents de ne plus, en tout cas d'être discrets dans leur fréquentation du site, parce que des tensions apparaissaient entre les schizophrènes et des parents de schizophrènes qui ont créé vraiment des souffrances. Et j'ai trouvé plus simple de dire aux parents, vous pouvez venir là, vous pouvez parler discrètement, mais si vos messages suscitent de la tension, à ce moment-là, je vous demanderai de quitter le forum. Et le problème des schizophrènes, c'est que généralement, ce sont des gens qui sont isolés au milieu d'un univers entre guillemets normal, qui sont le fou qu'on désigne du doigt, et qui se sentent exclus du milieu. Alors que sur ce forum, ils sont entre eux, ils discutent entre eux, et c'est un espace totalement unique, avec certains, bien sûr, hôpitaux de jour, où ils peuvent discuter entre eux, avoir leur humour très particulier, l'humour du schizophrène, quelque chose que je ne connaissais pas. Ils sont drôles, ils sont vraiment drôles, mais c'est un humour très décalé, et vivre les choses comme ils le sentent.
C'est ce que j'avais voulu demander. Ils doivent arriver de lire quelques posts. Quelle impression vous donne donc ces paroles de schizophrène, ce qu'ils écrivent? Est-ce que d'abord ils écrivent de façon complexe, intelligente même?
J'ai été absolument effaré quand j'ai créé ce forum. Je ne connaissais rien à la schizophrénie, comme beaucoup de médecins qui ne sont pas psychiatres. Et j'ai découvert des gens, mais d'une qualité absolument exceptionnelle. Il s'agit encore une fois de ce que j'appelle les schizonautes, c'est-à-dire des schizophrènes qui ont gardé suffisamment de capacités cognitives pour communiquer sur Internet. Mais ces gens qui sont paralysés dans leur vie de tous les jours, qui sont terrorisés à l'idée d'entrer en contact avec l'autre, arrivent à écrire des choses extraordinaires de profondeur, d'intelligence. Ce sont les gens les plus émouvants que j'ai jamais rencontrés.
Alors qu'est-ce que vous faites si vous constatez malgré tout, puisque ces gens sont en détresse, des réactions violentes, et j'allais dire, est-ce que ça intervient souvent le soir, la nuit d'ailleurs, dans les moments d'angoisse? Est-ce que vous regardez l'heure à laquelle sont postés les posts?
Ça fait beaucoup de questions. Il est clair qu'une crise d'angoisse nocturne, quand tout le monde a quitté le forum, va avoir plus d'implications. Mais là, vous me prenez à froid, je n'ai pas fait statistiques précises, je n'ai pas l'impression que les tensions apparaissent plus souvent la nuit que le jour.
Alors on marque une dernière pause, on en reparle juste après. FM, c'est vous, dernière ligne droite jusqu'à 13h avec notre invité, le docteur Dominique Dupagne, médecin et créateur du site internet atout.org. La médecine sur internet, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous parlions du forum sur la schizophrénie qui touche le handicap psychique. Alors est-ce qu'il est possible parfois qu'un internaute ait une influence négative sur un autre? Le cas extrême qu'on prend toujours, c'est l'invitation au suicide, vous voyez, la promotion du suicide. Est-ce que c'est arrivé ça?
Bien sûr, c'est même fréquent, et la charte du forum schizophrénie est la plus stricte de celle de tous mes forums. Il est interdit d'évoquer des questions mystiques, il est interdit de déverser un mal-être massif qui nécessiterait plutôt une prise en charge thérapeutique. J'ai été forcé de mettre des bornes parce que il y a une contagiosité effroyable des sentiments de mal-être, ce qui est valable aussi pour le forum sur la psychologie en général, qui est un autre forum que schizophrénie, où les modératrices font très attention à cela. Quand c'est pas contributif, quand c'est juste je déverse tout mon mal-être sur le forum, à ce moment-là, on stoppe le processus.
Alors, il y a quelques règles de bon comportement, parmi lesquelles il faut pas oublier que la schizophrénie recoupe des personnalités très différentes. Et ça signifie qu'on ne peut pas comparer une situation à une autre. Et pourtant, c'est le but du forum, de comparer les situations.
Oui, mais le problème en matière de schizophrénie, c'est qu'il y a plein d'atteintes différentes. Et que donc, si quelqu'un dit, par exemple, écoutez, moi, j'ai réussi à arrêter mes médicaments pendant 2 mois sans problème et ça va très bien, le drame serait que tous les schizophrènes du forum se disent, oh, ben, je vais faire pareil. Parce qu'il y a des risques importants. Or, il y a une tentation permanente d'arrêter les médicaments chez les schizophrènes et qui donne souvent, pas toujours, mais presque toujours des catastrophes. Et donc, faut éviter ce type de contagion.
Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des relations qui se nouent entre les internautes, entre les modérateurs du site et les internautes?
Alors, il y a plusieurs types de relations. Il y a des couples qui se forment, ça c'est clair, je le sais, j'ai eu des échos,
carrément.
Je sais pas tout, on me dit pas tout.
Il y a des enfants.
Il y a des couples qui se forment, il y a des gens qui ont des relations, que ça soit sur les forums d'arrêt du tabac, que ça soit même sur le forum schizophrénie, il y a des relations qui se font. Et puis, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'aident à gérer ces forums bénévolement.
Je cite très rapidement,
très rapidement leur nom façon César, en oubliant comme toujours peut-être quelques-uns, mais Isolta, Corinne, Philippe, Winnie, Kathleen, Pandore, Aloès, Julia, Hélène, Sol, Orphis, Stan. Il y a une Canadienne, il y a une Australienne, il y a des Français, il y a vraiment de tout.
Alors est-ce que l'hôpital, c'est-à-dire le système de santé, est un lieu où tout est trop séparé? C'est-à-dire qu'il y a des malades, par exemple, qui vivent une expérience extraordinaire pendant un mois ou deux avec leur infirmière ou leur médecin, mais qui ne se revoient plus jamais après. Est-ce que Internet réussit ce que ne réussit pas l'hôpital dans ce sens-là?
Oui. Oui, clairement, parce que les gens échangent leurs coordonnées. Vous avez des gens qui se retrouvent sur d'autres forums qui ne sont pas à toutes pour parler d'autres choses. Les gens qui ont arrêté de fumer depuis 3 ans n'ont pas envie de rester sur le forum d'arrêt du tabac, mais ils ont parfois créé un autre forum où ils parlent de recettes de cuisine entre eux. Il y a une véritable convivialité qui se crée.
Les risques d'Internet, c'est quand même de céder à la tentation de l'autodiagnostic et même de l'automédication, l'autotraitement. Est-ce que ça existe? Est-ce que Comment on le fait pour prévenir ça?
C'est terrible ça, parce que c'est le frein. C'est ce qui nous conduit sur Atout à être extrêmement strict sur les demandes de diagnostic, où il y a les gens qui exposent des symptômes en disant est-ce que quelqu'un aurait eu la même chose, ce qui n'a aucun intérêt puisque ça ne veut rien dire et ça ne débouche sur rien. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un danger. L'autre danger auquel nous sommes confrontés, c'est l'internétose. L'internétose est un terme que j'ai créé et qui désigne une espèce de phobie qui fait qu'on est persuadé qu'on est atteint d'une maladie, et plus on lit les descriptions de la maladie partout, plus on est sûr qu'on l'a. Et malgré tout ce qu'on peut lire, on n'arrive pas à se rassurer, et notamment vis-à-vis de la séropositivité. C'est affreux. Il y a une discussion qui s'appelle « J'ai peur d'avoir le sida » et sur laquelle il y a des milliers de messages et qui a été lu des dizaines de milliers de fois.
Alors, il est possible de discuter médicaments, par exemple, et est-ce que finalement le risque sur l'automédication, c'est pas la confusion entre la médecine sur Internet et la médecine par Internet?
Alors, la médecine sur Internet et la médecine par Internet, c'est une belle image, hein. La médecine sur Internet est une bonne chose, c'est-à-dire accroître sa connaissance de la médecine, de la maladie et des autres sur Internet, c'est bien. La médecine par Internet, c'est-à-dire se soigner sur Internet, est sûrement quelque chose de dangereux.
Alors, quelques références pour terminer cette émission, la fin de l'émission approche. Une association de médecins et de patients qui milite pour l'indépendance de l'information, c'est formindep.org, F-O-R-M-I-N-D-E-P. Également doctissimo.fr, vous connaissez tous. Du côté des blogs, la vie d'un médecin urgentiste, samu.over-blog.com. Et votre site, c'est www.atoute.org. Merci docteur.
Merci Christophe.